Danse Cité et OFTA présente Invisible d'Aurélie Pedron, qui est chorégraphe, performeuse, interprète, danseuse, artiste quoi. Bonjour Aurélie Pedron.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Invisible, pourquoi ce titre? Quelle est votre proposition, Aurélie?
En fait, Invisible est une œuvre qui rend visible les choses qu'on ne voit pas d'habitude.
Ah oui, un peu dans l'esprit de Antoine de Saint-Exupéry dans Le Petit Prince.
Ah, je ne l'avais pas vu comme ça, mais ça pourrait. Oui, ça rend visible ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire l'écoute, comment l'écoute les uns des autres nous transforme physiquement, comment l'écoute d'un espace nous permet d'inscrire des actions qui le transforment. Oui, c'est vraiment une œuvre qui rend visible les choses qu'on ne voit pas, l'intelligence du collectif. Entre autres.
Oui. Est-ce que le processus artistique, j'ai lu en quelque part qu'il a duré 5 ans ou 3 ans, en tout cas, il s'est étalé sur plusieurs années. Est-ce que c'est vrai?
Effectivement. On a commencé fin 2017.
OK. Pourquoi ça a été si long? À cause de la pandémie qui vous a arrêté? Fin 2017, on n'était pas encore dans la pandémie.
C'était une œuvre qui demandait un long processus. Mais effectivement, la pandémie nous a rallongé encore le processus et nous a rajouté quelques défis. Mais on peut pas faire une œuvre de 72 heures en une année. Ça peut pas être quelque chose qui se fait rapidement. Il y a vraiment un processus qui s'inscrit dans le temps et on dirait qu'au final, tout était très cohérent.
Vous avez bien dit 72 heures. Est-ce que vous allez capturer le spectateur pendant toutes ces heures?
Non, on ne fera pas ça. Le spectateur, au contraire, est très libre. Il peut arriver quand il veut, il peut repartir quand il veut, il peut rester le temps qu'il souhaite. C'est vraiment une œuvre sur la permission et sur les possibilités. Et l'inscription du spectateur dans le moment qu'il choisit, qu'il s'accorde pour lui-même, pour vivre cette œuvre-là, fait partie de ses permissions.
Alors, qu'est-ce que le spectateur ou spectatrice va vivre? Comment ça va se déployer, s'exprimer sur la scène?
Invisible. Alors, il y a 10 danseurs qui sont gardiens du feu, je dirais. Mm-hmm. Le feu étant la danse, le mouvement. Évidemment, ils ne sont pas les 10 en mouvement pendant 72 heures. Il y a tout un système de relais, justement, avec et grâce à l'écoute. Et les spectateurs, eux, viennent et ils s'inscrivent un peu dans un jeu de société 3 dimensions. J'aime le voir comme ça. Ils ont un jeu de cartes qui leur propose des actions, des manières de regarder. Ils peuvent se déplacer dans l'espace, ils peuvent mettre des musiques ou n'importe quel son qui viennent des internets, extraits de films, extraits de discours historiques. Et toutes en fait, la présence des spectateurs et leurs actions va nourrir l'œuvre.
Alors,
la transformer.
Le spectateur devient partie prenante du spectacle, devient un artiste.
Oui, il y a une co-responsabilité pour tenir cette œuvre-là et la vivre ensemble entre les artistes et les spectateurs. J'aime beaucoup travailler sur le lien et sur la relation. Et donc, avec cette œuvre-là, je crois que j'ai poussé encore plus loin cette idée du lien, de qu'est-ce qu'on fait ensemble, qu'est-ce qu'on forme ensemble, qu'est-ce qu'on crée ensemble.
Et vous, Aurélie Pedron, est-ce que vous êtes sur la scène?
Moi, je peux pas m'empêcher de danser parce que c'est tellement enivrant, cette danse infinie, que mon corps, à un moment donné, cède. Mais je me vois plus comme gardienne de l'espace avec Cathy Casey, qui est avec moi, qui travaille à Montréal Danse, qui est coproducteur de cette œuvre-là. On est 2 gardiennes de l'espace pour s'assurer que tout va bien, pour contenir l'espace, soutenir les danseurs s'ils ont besoin de nous.
Alors, gardienne de l'espace, ça veut dire que vous allez être présente et vous allez observer ce qui se passe?
Je vais être présente pendant les 72 heures, oui.
Ah,
moi-même,
oui.
Je vais faire des actions. Je vais, oui.
Et vous avez fait un baccalauréat en danse à l'UQAM. Vous avez aussi terminé une recherche création de maîtrise qui portait sur l'émergence en création et l'anti-héroïsme mm-hmm. du créateur. Ça s'est passé mm-hmm. en 2013. Qu'est-ce que mm-hmm. l'anti-héroïsme du créateur? Est-ce que ça a un lien avec Invisible?
Ben, effectivement, on dirait que vous me permettez de le faire, je ne l'avais pas vu moi-même, mais en donnant la permission aux spectateurs d'inscrire des actions dans l'œuvre et donc de la transformer, ça, c'est plus une œuvre qui m'appartient. J'ai fait émerger cette œuvre-là dans un certain contexte qui m'a un petit peu dépassé d'ailleurs, mais après, elle ne m'appartient plus. Elle va vivre grâce aux actions de tout le monde. Le temps aussi devient maître d'œuvre dans cette pièce-là. Le temps chorégraphie les danseurs, c'est plus moi qui suis maître d'œuvre. Donc c'est vraiment en ce sens-là que l'héros de la création ou l'héroïne, pour moi, ce n'est pas nécessairement le créateur, donc ce n'est pas nécessairement moi. Moi, je fais un travail qui permet d'inscrire un espace dans une société et ensuite on la fait vivre ensemble comme, je dirais, comme humanité.
Est-ce que c'est une idée que vous avez eue vous-même, vous toute seule, ou en allant, je ne sais pas, voir un spectacle qui avait une durée semblable, parce que ça existe aussi ailleurs, notamment en théâtre? Je pense à Robert Lepage qui peut faire des spectacles qui durent des 6-8 heures, pas des 72 heures par exemple.
Mais effectivement, il n'y a rien qu'on n'a jamais inventé. Tout a déjà été fait, hein. On ne fait que refaire les mêmes choses, mais en les agençant de manière différente. Mais comment ça a émergé, cette idée de 72 heures? Je pense que c'est avec les danseurs en studio, parce qu'on faisait des longues improvisations de 3-4 heures et ils me disaient « Oh, qu'est-ce que ce serait si on passait toute une nuit à continuer à faire ce travail ?» Et on s'est dit « Ah, on devrait essayer de faire ça pour 3 jours pour voir où ça nous mène comme interprète, comme humain. » Et après ça, on s'est dit, oh, ça ne peut pas être autrement que ça. C'est ça.
Et le spectateur ne se sentira pas mal s'il sort pendant la représentation, là?
Absolument non. Pas. Ça fait partie de l'œuvre. C'est une œuvre qui se fait et qui se défait continuellement. Et le spectateur, des fois, c'est absolument magique quand à 3-4 heures du matin, il y a 2 ou 3 personnes qui sont là dans l'espace et très peu de danseurs aussi parce que plusieurs se reposent. Il y a vraiment une magie qui est incroyable et qui ne sera pas la même qu'à 8 heures du soir, par exemple, où on pense qu'il y aura certainement plus de monde dans l'espace. Et ça fait partie de l'œuvre, ces changements-là. Dans son rythme, dans son intensité, dans son sa densité d'occupation.
Alors, le défi, c'est pas nécessairement, oui, vous voulez garder, vous voulez que le spectateur, la spectatrice soit intéressé, soit attentionné par votre proposition, mais ce n'est pas de garder le spectateur ou la spectatrice pendant 72 heures dans l'espace.
Non, vraiment pas. Non, au contraire, même... Ce que je souhaite pour le spectateur, c'est qu'il revienne plusieurs fois. Avec un billet, les spectateurs et spectatrices peuvent revenir autant de fois qu'ils souhaitent. Et je pense que c'est plus pertinent de créer un lien comme ça de fil en aiguille en venant à plusieurs moments plutôt que de rester un très, 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 très long moment pour se dépasser soi-même. On dirait que cette œuvre-là nous fait nous dépasser, mais c'est pas le but. Le but est de s'écouter, de s'arrêter quand on en a besoin, et on dirait que c'est comme ça qu'on arrive à se dépasser.
Et l'espace, c'est au LAVIE, Laboratoire Arts Vivants et Interdisciplinarité. Est-ce que c'est un petit espace? Combien de spectateurs vous pouvez accueillir?
C'est un grand et bel espace. En fait, c'est l'ancienne agora de la danse sur la rue Cherrier.
Oui.
Ça se trouvait dans le département de danse de l'UQAM. C'est une très belle salle. Et on pourrait accueillir beaucoup de monde, mais on veut restreindre l'espace à 30 personnes. Au début, c'était à cause des contraintes sanitaires. Mais on s'est aperçu que 30 personnes, c'est bien. Ça fait respirer l'œuvre. Donc, on s'est dit, bon, on va performer pendant 72 heures. Donc, on souhaite qu'il y ait une espèce d'autorégulation. On va informer d'une manière, avec une lumière, les spectateurs quand l'espace est plein et qu'on commence à avoir une liste d'attente pour qu'il y ait une autorégulation de cet espace-là. Donc,
d'où l'importance,
je réponds à vos questions, oui.
D'où l'importance de la gardienne de l'espace.
Exact.
Et l'importance aussi de l'écoute. Vous parlez beaucoup d'écoute, l'importance de l'écoute en création. Qu'est-ce que ça représente pour vous?
Pour moi, c'est vraiment au cœur de mon travail. C'est vraiment au cœur de cette œuvre-là. C'est ce qui me touche, en fait, comme dans la possibilité qu'on a d'écouter les choses et dans cette écoute de se transformer soi-même, de se transformer ensemble. Et je travaille beaucoup à me soustraire et à guider les artistes avec lesquels je travaille de la notion de vouloir quelque chose, avoir un but précis où on va être productif. Je me soustrais de ces mécanismes-là pour laisser advenir les idées, laisser advenir le mouvement. Pour les danseurs, c'est vraiment au cœur de leur pratique, de la pratique qu'on a établie ensemble. Et il advient quelque chose qui est plus grand que ce qu'on voudrait par notre force de la volonté.
Est-ce que ça veut dire qu'il y aura place à l'improvisation dans le spectacle invisible?
Pour les danseurs, vous parlez?
Oui.
Absolument. On ne travaille que par improvisation.
Ah oui.
Et le mot d'ordre, oui, parce qu'on ne pourrait pas chorégraphier quelque chose de 72 heures. Ce serait une pure folie pour les danseurs.
Un autre défi, peut-être une autre fois.
C'est pas ma ligne de
non,
travail.
Non.
Les danseurs, pour qu'ils puissent travailler comme ça sur le temps et surtout sans se blesser, il faut qu'ils soient dans une écoute très vigilante de leur propre corps et très vigilante de l'ensemble. En fait, le fait qu'ils aient développé une espèce de virtualité de l'écoute leur permet de se transformer les uns les autres continuellement. Et ça se voit. Et ça, c'est magnifique. C'est touchant de les voir se transformer leur mouvement comme une espèce de contamination invisible, mais qui se voit dans les corps, qui se voit, on dirait des bancs de poissons dans l'eau.
Wow.
C'est gracieux. Ouais, ouais, ouais.
Une contamination invisible, ça peut faire peur, oui. Mais ici, c'est une bonne contamination.
Oui, une contamination positive.
Oui, un peu comme, je pensais à un band de jazz là, qui s'écoute et qui se relance à partir du motif qu'un tel va créer en musique.
Mais oui, mais l'art se passe dans l'écoute, hein. Mm-hmm. L'art est comme creuser des espaces qui n'existent pas auparavant parce qu'on voit, on écoute, on est dans une ouverture à quelque chose de singulier.
Est-ce qu'il y aurait de la musique dans votre proposition?
Absolument, et d'ailleurs les spectateurs peuvent mettre eux-mêmes de la musique.
Ah oui?
Il y a 6 entrées de son. Et avec leur téléphone, ils peuvent brancher leur téléphone, mettre leur propre musique ou n'importe quelle source sonore, le chant des baleines.
Mais ça ne sera pas cacophonique?
Quand on est dans l'écoute, il n'y a pas de cacophonie.
D'accord. ça pique ma curiosité. J'ai lu que vous vous affranchissiez des conventions associées au spectacle et ici, c'est comme assez évident. Qui sont les danseurs et les danseuses d'Invisible, Aurélie Pedron?
Ils sont 10, alors je sais pas si c'est pertinent de les nommer tous.
Mais ils viennent d'où?
Ils ont tous des formations professionnelles, soit de l'EDCM.
L'EDCM?
C'est l'École de danse contemporaine de Montréal.
D'accord.
Il y a une formation aussi à l'UQAM, une formation à Concordia. Les danseurs les plus expérimentés ont plus que 50 ans et certains danseurs viennent de finir d'art en 2020 pendant la pandémie.
Ah oui.
Et il y a une écologie des corps, une écologie des connaissances et des énergies du fait de cette pluralité des âges qui est absolument merveilleuse.
Ça veut dire quoi une écologie des corps?
Ça veut dire que, un petit peu comme dans une forêt, une monoculture va appauvrir une terre.
Ah,
mais là,
oui.
C'est pareil. S'ils avaient juste des corps qui étaient tous de la même forme, la même le même âge, la même énergie, ce serait mono.
Ce serait plate.
Oui, autrement dit. Alors que là, on a des énergies différentes, des corps différents, des âges différents qui font qu'ils ont chacun leur personnalité, leur singularité. Et ils forment un tout qui s'autogénère, qui se régénère.
Ça me fait penser, est-ce que vous avez déjà monté ou avez déjà eu l'idée de monter des spectacles avec des danseurs, des interprètes qui vivent en situation de handicap?
Je suis présentement en train de faire une création avec des 4 non-voyants.
Ah oui?
Oui.
Et comment ça se passe?
C'est merveilleux. C'est absolument merveilleux parce qu'ils m'apprennent beaucoup sur qu'est-ce que la réalité. leur point de vue, pour pas faire de mauvais jeu de mots, mais leur considération de l'existence est tellement différente de la nôtre, mais tellement réelle, tellement vraie, tellement singulière, qu'ils m'apprennent beaucoup. Ils m'apprennent beaucoup sur la perception du corps. Oui, c'est très beau projet.
Il faudra vous réinviter là, pour que vous nous parliez de ce spectacle-là. Est-ce que vous envisagez le présenter bientôt, en 2022?
Pas en 2022, là, j'ai déjà fait que présenter celui-ci. Je suis en processus pour que ce projet trouve sa place à Montréal. Certainement, dès qu'on lui a trouvé une place, on vous fera signe.
Ben, merci beaucoup. Nous serons attentifs. Alors, d'ici là, ben, il faut aller voir Invisible au Laboratoire Art Vivant et Interdisciplinarité. Plus simplement, ça s'appelle La Vie et c'est situé au 840, dis-je bien, rue Cherrier. C'est un spectacle qui a été chorégraphié par Aurélie Pedron et c'est présenté dans le cadre de Densité Ofta du 26 mai. Donc, ça s'en vient, là. C'est cette semaine jusqu'au 29 mai. Si on va voir des billets, on procède comment?
Vous allez sur le site du OFTA et vous allez pouvoir. C'est une billetterie en ligne où vous allez pouvoir acheter votre billet en ligne. Et d'ailleurs, en achetant un billet pour Invisible, vous avez accès à toutes les œuvres qui sont diffusées par le OFTA.
Ah oui. Alors, on va avoir d'autres nouvelles parce que j'ai au moins deux collègues qui vont assister à Invisible, deux collègues de Canal M, et on va avoir l'occasion d'en reparler, de les entendre en tout cas témoigner de leurs expériences. Merci beaucoup, Aurélie Pedron. Ça a été un plaisir d'échanger avec vous.
Plaisir partagé. Bonne journée.
Vous aussi.